Thomas, en fait, on t'a invité ce soir parce que tu es dans notre entourage une sorte de référence ludique. Et c'est à chaque fois qu'on parle de jeux de train, on parle un petit peu de toi.
De moi ou de Mathieu?
Oui, effectivement, on parle de toi et de Mathieu. On parle de Mathieu parce que lui n'aime pas les jeux de train et qu'il n'a pas de goût.
Et par contre, c'est un jeu de train, il refuse de toute façon. En fait,
Judith, je ne parle pas de toi. Et de toi parce que tu es notre référence en matière de jeu de train. Alors,
c'est Olivier qui le dit, moi j'ai aucune...
Non, mais attends.
Je ne connais pas assez Thomas pour dire qu'il est une référence.
J'ai aucune prétention non plus, hein, je te rassure.
Bah, tu es ma référence. Donc,
on dirait une chanson.
Ma référence à moi. Est-ce que tu peux, par exemple, on va quitter un petit peu, on va faire une petite aparté, ça nous manquait.
Non, mais en parlant de String Railway, c'est une très bonne introduction pour des gens qui voudraient aller plus loin.
À partir de String Railway.
Alors...
Oh putain, tu vas te galérer pour monter ça.
Ah non, mais j'enchaîne, moi je...
Il garde comme ça.
Et donc, puisqu'on parle de String Railway, est-ce que tu peux nous dire, toi, Thomas, quels sont tes jeux de train favoris? Alors, d'abord, il y a Age of Steam, mais ça, c'est mon jeu de train préféré, donc je vais te laisser parler maintenant.
Alors, je t'emprunte Age of Steam, parce qu'effectivement, c'est peut-être le meilleur jeu de train, enfin, en tout cas, mon préféré. C'est pas que un jeu de train, mais bon, c'est effectivement essentiellement un jeu de train.
Ah, comment ça, c'est pas que un jeu de train?
C'est aussi un jeu de réseau, un jeu d'économie, un jeu d'enchères.
Attends.
Mais c'est des concepts qui...
Parce que jeu de train, jeu de réseau, il y a bien eu des jeux de dégoût par le passé en Allemagne, Dunter und Gruber, c'est ça?
Oui.
Mais, c'est des jeux de plombier, quoi. Enfin, là, c'est pas des jeux de plombier, c'est des jeux de réseau.
Ah, des jeux de train, quoi. Des jeux de tuyaux, tu veux dire?
Des jeux de tuyaux.
Ouais. non, c'est du jeu de train dans le sens où tu as un réseau ferré à construire et dans le cas des Jobs Team, des marchandises à acheminer d'une ville vers une autre, etc.
Ça, c'est les classiques en général, les jeux de train. Hein.
C'est les classiques, effectivement. Après, à ça s'ajoute une dimension économique avec des actions à manipuler, par exemple, actions dans le sens boursicotage ou alors des emprunts à faire ou de l'argent à manipuler pour arriver à tes fins. Mais dans ce sens que String Railway, on peut voir ça comme une introduction au jeu de train où il y a un petit réseau à construire et ça peut être l'opportunité d'essayer autre chose, d'embrayer sur des jeux de train pas forcément plus costauds mais différents, on va dire. Si ça plaît, après on peut enchaîner sur le plus classique, le plus connu, c'est les Aventuriers du Rail par exemple, où là effectivement on retrouve la notion de réseau, de liaison à construire entre deux villes. Sinon dans le même registre, on va dire familial, voire familial plus.
Attends, on va peut-être s'étendre juste deux minutes sur
les Aventuriers du Rail,
sur les titres que tu...
Je suis sûr que vous en avez déjà parlé.
Ouais. Alors pas tout le monde en fait, parce qu'avec avec Freepod on a des gens qui ne sont pas habitués aux jeux de société et on essaie de quand même tout le temps de replacer un petit peu les jeux dans leur contexte.
D'accord.
Même si c'est rapide.
Ouais, parce que les Aventuriers du Rail, c'est quand même...
Les Aventuriers du Rail, au-delà du jeu de train, j'ai envie de dire, si vous cherchez un jeu pour initier des non-joueurs, c'est un très très bon candidat.
Tout à fait.
Oui, il a raflé plein de prix. C'est un jeu, qu'est-ce qu'on peut dire son nom? On va pas représenter le jeu. C'est un jeu, il faut faire des objectifs de liaison.
L'idée, c'est qu'on a une carte. Sur la carte, on va poser des locomotives. Les locomotives sont posées à partir grâce à des cartes. Et l'idée, c'est que soit on pose des locomotives, soit on pioche des cartes. Et en l'occurrence, l'intérêt, c'est justement de savoir quand est-ce qu'il faut thésauriser et garder le plus possible de cartes en main pour faire des longues routes, ou alors quand il faut poser, bloquer les autres.
En sachant qu'il y a une compétition sur le plateau, parce que les liaisons, elles sont disponibles pas beaucoup de fois.
Par contre, c'est qu'un jeu de liaison. Là, il n'y a ni voyageurs, ni marchandises à transporter. Il faut juste faire des liaisons.
Alors, ils ont essayé de faire entrer cet aspect-là un petit peu, parce qu'il y a plein de cartes différentes, et dans certaines cartes, on a cette notion de voyageur, mais c'est très très light. Donc, les Aventuriers du Rail, c'est 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, donc c'est vraiment pour un jeune public, ou un public familial, 30 à 60 minutes, c'est vraiment très très intéressant. Moi, c'est le jeu auquel j'ai envie de revenir. C'est pas Carcassonne, et c'est vraiment les Aventuriers du Rail, surtout avec les enfants.
Et il y a eu une flopée d'extensions, il y a eu la Scandinavie, la Suisse, etc. Et récemment, il y a eu l'Asie, vous avez déjà parlé,
oui.
Et l'Asie légendaire et la Chine.
Ça fait super plaisir d'avoir quelqu'un qui nous écoute, en fait.
Ouais, c'était moi, en fait, votre auditeur.
Et oui, c'est toi.
Et non, et il y a notamment sur l'Inde, il y a une variante en équipe.
Oui,
avec, c'est sur l'Asie.
C'est l'Asie légendaire, c'est ça, effectivement. Ouais. Où il y a donc une variante en équipe où on pose un chevalet entre deux joueurs et on partage les cartes. Et ça, c'est très, très, très bien.
J'ai adoré.
Moi, j'ai vraiment
conquis cette version.
J'étais passé un petit peu, j'avais un peu mis de côté où j'étais passé à d'autres jeux, notamment de train. Et avec cette variante et cette règle de jeu en équipe, je suis un peu revenu sur le jeu et ça m'a vraiment bien, bien plu.
Ouais, ouais. Ça a été un coup de cœur quand j'avais eu l'extension, il y a un an.
Ouais. C'est vieux. Après, si les aventures du rail, ça plaît, pour aller un peu plus loin, il y a, alors c'est plus du train, mais ça reste dans la thématique, c'est Airlines Europe, qui est une rethématisation, alors je crois que c'est Union Pacific,
oui.
Qui était un jeu de train pour lui à la base. Donc c'est toujours un jeu d'Alan R. Moon, qui est l'auteur des aventures du rail et de plein d'autres jeux. Et là, on introduit du coup la notion d'action, dans le sens boursicotage, où on va prendre des parts dans les différentes compagnies. Donc, comme le titre l'évoque, Airlines Europe, on va gérer des compagnies aériennes pour établir des liaisons toujours entre différentes villes. Mais là, dans le sens où on ne possède plus les compagnies, on n'en possède qu'une partie. Et on va essayer de développer les compagnies qui nous semblent les plus profitables et évacuer les moutons noirs, on va dire.
Et du coup, ça rehausse un peu le niveau, enfin, c'est un niveau un petit peu au-dessus.
C'est un niveau un petit peu au-dessus, ça reste très abordable.
Même par des enfants?
Même par des enfants. Après, à partir de 10-12 ans, on va dire.
Oui, il faut monter, oui, forcément.
Mais... Voilà. Mais c'est une très bonne introduction à des jeux plus compliqués, où on peut même s'en tenir. Donc je crois que c'était francisé par Philosophia.
Tout à fait,
oui. C'est bien.
Mais j'ai le visuel d'Olivier qui m'aide. Et c'est... Voilà. Après, graphiquement, on aime ou on n'aime pas, je trouve, dans la moyenne, school, on va dire. Là. La couverture fait très old school.
C'est un jeu allemand à la base, donc forcément
c'est
pas.
C'est un jeu allemand, voilà. Faut pas vraiment l'acheter pour les graphismes, mais le jeu en lui-même vaut le coup.
Airlines Europe, c'est un jeu qui est paru chez Philosophia, donc tout en français. 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, 75 minutes, et pour à peu près une quarantaine d'euros chez Ludic Bazar. C'est à peu près le prix d'un aventurier du rail. Après, les cartes sont disponibles pour un peu moins cher.
Voilà, sachant qu'après, les aventures du rail, donc, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'extensions qui sont là pour renouveler le jeu. Là, Airlines Europe, il n'y a que le jeu de base. Mais il y a déjà largement de quoi faire avec le jeu de base.
Et du coup, j'ai le droit d'en glisser un au milieu.
Bien sûr.
Puisqu'il va juste après, dans la série, je fais du réseau et gère les actions, c'est Paris Connection.
Paris Connection? Mais non, Paris Connection, c'est juste un jeu d'action, c'est pas un jeu de train.
Comment ça, c'est pas un jeu de train, Paris Connection?
Mais Paris Connection, c'est pas un jeu de train,
La thématique, si tu développes les réseaux.
Tu poses quoi sur le plateau?
Non, mais t'aurais mis des égouts, ça serait pareil, je veux dire. C'est un jeu de plombier, enfin, je veux dire.
Pour beaucoup de jeux de train, ça marche à ce moment-là.
Ou une chaîne d'hôtel, ou ce que tu veux.
Bien sûr, mais Trigger-Way, c'est pareil.
Non, mais il y a que ça, en fait.
Non, Paris Connection, il y a la partie d'action qui va avec. Bah bref, c'était pour rester sur la thématique des jeux de train et gestion des actions. C'est encore un cran au-dessus, je pense, de...
Paris Connection, j'aime beaucoup. Je suis pas d'accord sur la définition, mais j'aime beaucoup. Savoir que c'est un jeu quand même assez atypique, c'est chez Queen's Game. Ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer une grosse demi-heure. Donc ça, c'est jamais très long, mais il y a des parties qui peuvent être pliées, mais en 2-2, quoi.
C'est très rapide, effectivement.
Et tu es fan?
Non, c'est ce qui me semblait.
C'est quand même assez atypique. Hein. C'est plus un jeu d'économie qu'un jeu de train.
Après, il faut choisir ses joueurs. Je dis pas ça pour Thomas, mais je l'ai eu montré à des joueurs qui n'ont pas trouvé l'intérêt parce que ils ont foncé direct sur Marseille et puis la partie a été pliée.
Même Marseille, c'est crade et ça pue.
Bonjour, on salue au passage les auditeurs de Marseille.
Marseillais.
Bravo. On a mis les pieds dans le plat, c'est fait.
Voilà, donc Paris Connection, c'est un titre de David Peters qui est paru chez Queen Games, une grosse boîte avec plein de matos à l'intérieur, 3 à 6 joueurs, 30 minutes, 10 ans et plus, bien 10 ans, parce que ou avec des gens qui sont habitués à jouer. On n'est plus dans le jeu entrée de gamme.
C'est la problématique des choix des actions, ouais, qui est pas.
Et puis tu vas perdre les gens, en fait. C'est ça qui est un petit peu embêtant. J'aime beaucoup, c'est très atypique, mais et c'est surtout une grosse boîte pour un petit jeu.
C'est ça atypique. Qui est. On se moque de moi quand je dis qu'un jeu est atypique.
Non, non.
Voilà. Bienvenue.
Oui, en fait, quand tu parles de Paris Connection, il y en a un autre que je voulais placer aussi et qui rentre dans la même, collection que Paris Connection, parce que c'est un jeu Winsome qui a été repris par Queen's Game. Alors, Winsome qui fait des jeux de train très arides, très abstraits, pour, vraiment pour fans, là, pour le coup, hardcore. Donc, il y en a quelques-uns qui ont été repris par, par Queen's, en gros, un an ou deux ans après.
Chicago.
Chicago Express, Paris Connection... il y a
German Railways.
Voilà, c'est celui que je cherchais, German Railways, et celui dont je voulais parler, c'était Samarkand, qui était un jeu qui s'appelait alors Edge of Skims, si je me trompe pas, à la base chez Winsome, qui a été repris. C'est plus des trains, c'est des chameaux, mais le principe reste le même, c'est faire des liaisons de chameaux entre les différentes villes, et en fait ça reprend tous les ingrédients d'un gros jeu de train qu'on appelle les 18XX. Là c'est vraiment des jeux à réserver aux experts, avec assistance par ordinateur dans le meilleur des cas, où on va prendre des parts dans des compagnies. Et c'est vraiment tout ça, simplifié à l'extrême, dans un jeu de 45 minutes, et très très accessible. C'est tout l'essence d'un gros jeu de train avec toute la dimension économique, du coup des fusions, des acquisitions, mais là qui vont se traduire par des mariages entre les familles de marchands.
Oui, c'est ça. Excuse-moi, on n'a pas du tout l'impression de jouer à un jeu d'économie.
On l'a joué, Sana. Ouais, je ne sais plus si c'était avec toi, mais ouais, on l'a joué.
Et vous avez aimé ?
M'a paru, on a fait qu'une partie, donc c'est dur. Ça m'a paru, enfin, il rentre tout à fait dans la collection Queen Games, mais pour moi, il me paraissait trop familial. Enfin, il y avait des aspects qu'on contrôlait pas assez pour. Mais il y avait des bonnes idées, effectivement. Je sais pas qu'à base c'était un jeu de train, je comprends.
C'était effectivement un jeu de train à la base, et du coup, on se retrouve à faire des caravanes de chameaux.
Oui.
Donc c'est comme des liaisons ferroviaires. C'est juste été transposé d'un thème à l'autre.
Voilà, mais il y avait l'aspect, effectivement, c'est une sorte de famille là dans le jeu avec les actions.
Et ça correspond à faire des fusions, acquisitions, entreprises, et du coup.
C'est normal. Mais oui, mais
c'est
exactement ça.
C'est pareil, c'est le principe du mariage.
Si on joue avec des non-joueurs ou des joueurs débutants, si on ne le dit pas, ça passe inaperçu en fait.
Ah ouais.
Et une fois quand on a joué à des jeux un peu plus gros, qu'on rejoue à Samarkand, on a cette impression-là, on a ce sentiment, on se dit ah ben c'est exactement ça, mais en 45 minutes avec des règles épurées, enfin vraiment une sorte de concentré d'un gros jeu économique en 45 minutes.
Donc Samarkand, c'est encore un jeu Queen Games pour 2 à 5 joueurs, environ 45 minutes, et à partir de 8 ans, peut-être privilégier des joueurs un petit peu plus âgés, 10 ans.
Et les auteurs, c'est David Peters, donc qu'on a déjà vu avec Paris Connection, ouais. Et Harry Wu, qui a fait justement les fameux Chicago Express dont on a parlé.
Chicago Express, je ne sais pas si on va parler ce soir, mais un très bon jeu de train aussi.
Et oui, on va en parler, une quarantaine d'euros.
On va parler des 150 jeux de train qui sont sortis.
Non.
On est sur des formats abordables pour l'instant, on va pas aller dans les compétitions.
Chicago Express,
c'est si, on va parler d'Edge of Steam quand même. Enfin, qu'on en reparle de.
Voilà, il va falloir qu'on monte tout à l'heure.
Doucement. Et ben, avant de parler d'Edge of Steam, effectivement, une bonne entrée en matière, ce serait Chicago Express, où là, on va avoir pour la première fois des enchères.
Ah,
dans un jeu de train.
Ah, ça devient déjà plus intéressant.
C'est déjà plus intéressant. Toujours un peu la même thématique que Samarkand. On ne contrôle pas une compagnie.
Excuse-moi. Thématique, ouais. Enfin, là, vraiment, on avait un habillage, un thème qui était très famille, très. Je fais des caravanes dans le désert,
non,
et je marie mes filles et tout ça.
Oui.
Ok, d'accord. Si on fait les jeux de train. On fait les jeux de train, Olivier, si tu suis.
Oui, bien sûr, ok. Excusez-moi, je vais me rendormir. Et puis...
Ça reste du jeu de train. On va poser des petits wagons sur des cases sur un plateau.
Enfin, on parle de Chicago Express.
De Chicago Express, tout à fait. on va retrouver des éléments qu'on a trouvés dans Paris Connection, par exemple. On va faire des chaînes de train, le but étant d'arriver le premier à Chicago.
Oui.
Donc il y a une grosse composante enchère. C'est essentiellement un jeu d'enchères, il ne faut pas l'oublier. Ça peut faire peur, mais elles sont assez fluides, les enchères. Mais quand on présente le jeu, il faut en passer par là.
Il faut savoir évaluer effectivement les valeurs des compagnies.
Exactement. Et comme beaucoup de jeux d'enchères, la première partie est un petit peu douloureuse.
Surtout que le jeu ouvre sur une enchère.
Exactement.
Il faut savoir.
On peut signaler, enfin, on peut rappeler que pour ceux qui ne savent pas, on a un éditeur qui est américain, qui s'appelle John Borer, qui est un petit peu fou et qui donne sa chance à des gens qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas forcément connus. Et qui édite 80 packs avec un ou deux jeux et des extensions.
Pour un jeu paru les années d'avant, ouais.
Voilà. Et Chicago Express, donc Wabash Cannonball.
C'est ça, c'est le nom original.
Faisait partie de ces packs et a été repris par Queen Games.
Un certain nombre de ces jeux sont repris effectivement chez Queen Games.
Oui.
Parce que c'est son principe en fait. Sur 80 boîtes Essen, mais surtout derrière, après, ils revendent des licences.
Et à ma connaissance, il n'y a que Queen Games qui reprend ces jeux.
Oui, pour, bah, à part Age of Steam, qui a une histoire un petit peu particulière.
Effectivement, l'histoire Borer Wallace,
mais
on
sinon,
faire
voilà.
un épisode entier dessus.
Mais sinon, effectivement, oui, c'est Queen qui reprend ses jeux. Et donc, c'était fini pour WebAshCon, enfin, pour
Chicago Express.
Il y en a un qui est pas...
Attends, excuse-moi. Chicago Express, c'est un jeu de... ben, on en a parlé. Arrivez-vous.
N'importe comment.
Non, ça, vous allez vite, donc ça va vite, mais c'est très intéressant. Et il faudra décortiquer, aller voir sur le site. On aura toutes les références à ce dont on est en train de parler. J'avais envie de jouer à des jeux de train, et là, on est en train de les enquiller les uns après les autres, du plus abordable avec Ticket to Ride, Les Aventures du Rail, jusque Edge of Steam, ce monument de jeux de train.
Il est encore plus complexe qu'Edge of Steam.
Oui, il est 1830, mais on est encore plus loin. Vous allez sur le site podcast.proxy avec un -jeu avec un X. podcast.proxyjeu.fr et vous aurez toutes les références. Donc
Chicago Express,
arrivez-vous, on en vient d'en parler, 2008, 2 à 6 joueurs, 60 minutes, et là c'est pas très long, et c'est ça qui est intéressant, c'est des jeux qui sont pas très très longs et qui sont vraiment intenses et qui sont rejouables 12 ans et plus.
Après 60 minutes, c'est un peu plus que ça.
Oui,
réalité,
c'est un an et demi. C'est
même 90 minutes.
C'est pas un an et demi, c'est une heure et demie.
Oui, c'est plus une heure et demie qu'une heure, effectivement.
Mais ça reste quand même assez...
Ça reste très accessible, ouais. D'autant que l'édition Queen Game est vraiment très jolie, elle est très très bien fichue.
Ah bah par rapport au jeu Winsome, forcément, c'est juste des sortes de petits garçons
qui est énorme,
légers. Tu mettras un visuel Winsome sur le site ?
Oui.
Pour que j'en vois ce que c'est que vraiment le...
À défaut, je prendrai mon SNCF et puis je vous montrerai Paris Connection.
Le fonctionnel.
Oui, à l'écart.
Oui. Donc, Chicago Express.
Ben c'est vrai.
Donc pour introduire les enchères dans les jeux de train, c'est le meilleur pour commencer vraiment vers les jeux un peu plus complexes, on va dire. Et après, ça ouvre la voie naturellement vers Edge of Steam.
Edge of Steam.
Déjà, direct. Du saut de Chicago Express.
La marche me paraît pas trop haute, effectivement.
Ouais, okay. Je peux en glisser un, mieux. Il a pas d'enchères, c'est un jeu de réseau de pick-up and delivery, donc... On dit toujours pick-up and delivery, donc en français, je sais pas.
De logistique
De livraison.
Je prends d'un côté.
Un jeu de livraison.
Je connais pas l'équivalent en français.
C'est un jeu de Martin Wallace, donc c'était First Train to Nuremberg. Je parlais de sa réédition, qui est un excellent jeu. Quoi ? T'es-tu ?
Bah ouais.
Ah bah t'as vu ça.
J'ai pas voulu en parler.
Ah ouais, mais.
Pourquoi ? Pourquoi tu voulais pas en parler ?
Ah, il est un peu rugueux, peut-être.
Il est un peu rugueux quand même. Ouais.
Il est pas
assez
tout. Mais là, on va attaquer avec Justin, donc comme dit, je vais glisser là. C'est un de mes jeux. En fait, c'est basique comme jeu. En tant que joueur ayant joué à Edge of Steam, etc., beaucoup de jeux de train, on dira c'est basique dans ses concepts, et pourtant, il a une force incroyable ce jeu, s'il joue que sur 4 tours. Le but, c'est qu'on joue pas une grosse compagnie de train, de toute façon, on joue une compagnie modeste.
C'est tout l'inverse.
Et ouais, et donc le but, ça va être de monter un réseau, juste pour livrer quelques marchandises. Donc en fonction des cartes, parce que First Train to Nuremberg, il y a deux plateaux, donc il y en a un en Angleterre, l'autre en Allemagne, on va pas livrer les mêmes choses. Mais donc en l'occurrence, sur la version anglaise, on livre du fromage et puis des pierres.
Donc le but, c'est très
drôle. Et puis on va livrer aussi des voyageurs, et le but, c'est donc de monter un réseau pour livrer ces marchandises et de le revendre dans la foulée à deux autres compagnies qui sont dans la région. Parce qu'à la fin de la partie, tout le réseau qu'on possède encore nous fait des points de malus. Et puis de toute façon, il nous coûte cher à l'entretien.
Ouais, c'est la grande particularité de ce jeu. Et effectivement, dans la sélection, c'est le premier qui introduit de la livraison de marchandises ou de voyageurs.
Voilà.
Tous les précédents se contentaient de construire le réseau. Là, on passe à un cran au-dessus.
Là, on livre les marchandises et il faut construire un réseau de manière un petit peu fourbe, puisqu'il faut s'octroyer des... On va comme s'assurer que les adversaires vont pas pouvoir nous piquer les marchandises.
Et le terrain est très, très important.
Il y a une phase d'enchère, il y a le terrain, et puis c'est toujours renouvelé les parties parce que les marchandises sont posées aléatoirement en début de partie. Et on a eu des fois des cartes très atypiques où finalement il n'y a pas grand chose à livrer parce que la pioche de départ a pas été heureuse. C'est pas grave, c'est ce qui fait que les parties sont toujours agréables à jouer. Donc pour moi, c'est un... En fait, je l'avais acheté en me disant, bon, c'est un jeu basique, je ferai quelques parties. En fait, non, je le sors encore très souvent. Alors, j'ai la première édition, mais...
La première édition, c'était Last Train to Wensleydale.
Last Train to Wensleydale,
qui est un des plateaux les plus moches que j'ai jamais vu.
Ouais, mais il est plus grand que First Train. Et et c'est sûr que les couleurs sont criardes. Bah, c'est Martin Wallace.
Un estomac vu en coupe, c'est horrible.
Mais je pense que Martin Wallace, en fait, est...
c'est juste
est daltonien, en fait.
Je vois que ça comme explication.
Mais le jeu est bourré de bonnes idées.
Mais oui, mais en fait, il est arrivé bien après après Edge of Steam, et tu sens que Martin Wallace, il a réutilisé justement le fait d'avoir de transporter des marchandises, de pas se faire piquer les marchandises. Ouais, c'est t'as quelque chose d'Edge of Steam dans First Train.
Donc par contre, c'est pas un jeu, là on est déjà, là on a déjà quitté les jeux familiaux. Hein.
Ah, largement.
Là on a déjà atteint, il faut déjà un petit niveau dans le jeu.
Donc First Run to Nuremberg de Martin Wallace chez Argentum Verlag et Zeman Game, paru en 2010 pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Et là on voit quand même l'augmentation de l'âge des joueurs, et puis 90 minutes, donc comptez 90 bien, à 120 minutes.
Bien 2 heures, ouais.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà, donc après vous pouvez aller sur Edge of Steam. Hein.
C'est Edge of Steam.
Donc on a parlé de Martin Wallace.
Alors Edge of Steam, est-ce que ça se trouve, ouais, parce que moi j'ai la version 2002.
Après il y a eu Steam.
Oui, moi c'est celle que j'ai eu, c'est Steam, effectivement.
Ah, t'as Steam toi ?
Ouais.
T'as pas Edge of Steam ?
Non, parce que je suis rentré dans le hobby, on va dire, un peu tard, et ah, ça, ouais, il ne se trouvait plus Edge of Steam.
T'as quel âge ?
17 ans comme Olivier.
Hey copain.
Non, c'est une question d'âge, c'est une question que t'as découvert le jeu plus tard.
Alors ouais, je suis rentré dans le hobby un peu plus tard, où l'édition déjà, la fameuse boîte orange d'Edge of Steam était déjà collector, introuvable, enfin, ou avec un budget qui était bien au-dessus de mes moyens.
Du coup, tu joues avec la règle de Steam ou la règle d'Edge of Steam ?
La règle de Steam.
Alors, attends.
Que je préfère.
On va quand même parler un tout petit peu de Edge of Steam. Après, on pourra peut-être justement parler des modifications de règles. Edge of Steam, c'est quand même un jeu qui est très 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 compliqué.
Oh, c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Qui fait très mal en fait, parce que c'est un jeu où on doit mettre à l'équilibre sa compagnie en transportant des marchandises d'une ville à l'autre. Et c'est pour ça qu'on retrouve First Run to Nuremberg, c'est que au début de la partie, on va avoir des villes sur lesquelles on va trouver des marchandises, on va construire des voies sur lesquelles, et on va mettre en place des villes. C'est-à-dire comme si on découvrait petit à petit un plateau et on va transporter de ville en ville, et on va devoir passer par le plus d'étapes possibles pour transporter ces matières premières.
C'est ça, ça paraît paradoxal, mais il faut faire le circuit le plus alambiqué possible, avec le plus d'étapes intermédiaires.
Et donc, développer sa compagnie pour pouvoir justement faire un saut, puis, enfin deux sauts, puis trois sauts, puis quatre sauts. On va prendre des rôles pour parfois construire des routes, parfois mettre une ville, parfois pouvoir transporter des marchandises. Le pire, c'est qu'on commence, on perd de l'argent. on va dépenser de l'argent,
Mais comme dans la vraie vie, une entreprise qui a de ses secrets, elle lève des actions parce qu'elle a besoin de financiers.
Et les premières parties, bah, si vous êtes bon, vous allez passer l'équilibre. Sinon, vous n'allez pas passer l'équilibre. Souvent,
même dans les premières parties, on fait la banqueroute en cours de partie. Voilà. Et c'est un des rares. Enfin, c'est un jeu quand même qui est très exigeant, où on peut se retrouver sorti à la moitié du jeu, et la fin de soirée est longue des fois.
Ouais, parce que c'est un jeu qui est. On n'est plus dans les 60, 90 minutes, même 2 heures.
3-4 heures.
Ouais, on est 3-4 heures. Mais c'était 2002, c'était le temps où on avait le temps. Tu vois, c'était le temps où on n'avait pas d'enfants.
Enfin, c'est pareil, c'est un jeu à extension aussi. Il y a eu plein de cartes qui sont sorties.
Tu jouais à 4, 4-5.
À 4, sur 4 joueurs qui connaissent déjà le jeu, en 2 heures,
c'est plus court.
Voire 2 heures et demie, c'est bouclé.
Ouais, mais ça se jouait bien.
Ça dépend de l'intensité des enchères.
Ça dépend, effectivement.
Rien que l'intensité des enchères peut faire mal.
Mais en fait, c'est un des rares jeux que je connaisse où, avant de jouer le premier coup, tout le monde brainstorm 10 minutes sur le plateau, alors qu'aucun coup n'a été joué.
Oui, mais t'es obligé.
Pour poser sa première enchère.
C'est d'autant plus le cas avec la version des règles originale qu'avec la règle Steam, puisque en fait on choisit dans la première phase, on va choisir combien on lève d'action, et ça définit l'argent qu'on va avoir pour le tour, et on pourra pas lever d'action pendant le tour, et donc il faut calculer à l'avance combien le développement du réseau va nous coûter et combien on va pouvoir mettre dans l'enchère, et l'enchère est capitale. Absolument. Et si on rate, ça fait très très mal, quoi. Effectivement, oui, j'aime bien ce jeu, mais c'est pas facile pour tout le monde de se dire le tour a pas commencé, il faut que je réfléchisse.
Ouais.
Effectivement, on met 10 minutes pour réfléchir, hein, y a pas le choix.
C'est un jeu dans lequel, si on se lance sur une partie, il faut être sûr d'en refaire une rapidement, sinon c'est pas la peine.
Ah, il faut se plonger dedans. Et puis il y a la carte, effectivement, il y a une carte de base, et puis après on peut avoir des extensions. Et par contre, on n'a pas parlé du visuel du jeu, qui est absolument sublime.
Hein. Très, très, très fonctionnel.
On parlait de Last Ride to Wednesday, mais là, ouais, là c'est...
Bah, ça serait intéressant de mettre ça aussi, le plateau de base
de Steam. Encore, je m'aperçois que la troisième édition, elle est presque plus jolie que la deuxième qu'on a, que tu dois voir comme moi, Olivier. Parce qu'il y a des petits effets en plus sur les tuiles.
Il y a des dégradés
une sorte de dégradé, tu vois, qu'il n'y avait même pas avant. Hein.
Là, c'était juste des aplats de couleurs, effectivement. Ouais.
Mais très fonctionnel. C'est ce qu'on leur demande.
C'est un mot qui vient souvent quand on parle des jeux de Wallace.
Ouais, mais Edge of Steam, en même temps, vu le nombre d'informations qu'il y a à avoir sur un plateau, moi, ça me choque pas.
Alors, Martin Wallace,
la beauté est ailleurs.
La beauté est en intérieur.
Là, pour le coup, c'est vrai, effectivement.
Enfin, Martin Wallace, c'est mon auteur de jeu préféré. Il fait vraiment des jeux sublimes avec des mécanismes qui sont sympathiques. Enfin, pas, c'est, le mot, c'est. Voilà. tu te prends une claque quand tu joues à un...
Ah, mais c'est sûr que Jaws Team, c'était une grosse claque ludique.
C'est innovant déjà, et je pense que c'est son meilleur jeu.
Et il a fait plein de bons jeux avec des bons thèmes et des mécaniques qui sont belles.
Brass.
Brass aussi, oui.
C'est Brass, moi, c'est un de mes jeux préférés.
Est-ce que c'est un jeu de train, Brass?
C'est un jeu de réseau. Il y a une composante de train, mais c'est un jeu de réseau, mais il n'y a pas que ça. Donc on peut pas le qualifier de jeu de train.
Non, par nous en parlons pas.
Mais je trouve, enfin, juste pour revenir sur Martin Wallace, je trouve que ça fait un petit moment qu'il a pas fait grand chose de vraiment bien par contre.
Non, mais ça fait rien.
Ah non. Oh non.
Attends, ça fait un petit moment. Alors donc en 2011 il a fait Craft Snow. En 2010 il a fait London.
Peut-être qu'il aime pas.
Alors j'ai vraiment aimé Few Acres of Snow. London bien, mais pas sauté au plafond non plus.
Bah non, mais c'est un bon jeu.
Bon, on va dériver là. Mais non, mais c'est sûr que quand il a eu fait Edge of Steam ou Brass, enfin, ou on va dire Edge of Industry, parce qu'il a, c'est un Brass amélioré, bon, bah, à partir de là, hein, il a placé la barre haut, c'est normal, on lui pardonne de ne pas y arriver toutes les fois.
Et donc, puis, à noter qu'une version.
Il a fait Edge of Renaissance. Il a fait,
Liberté, ça date de quand?
Ah bah, c'est d'avant.
Non, mais passons. Donc, Edge of Steam, c'est un jeu de Martin Wallace, qui est paru en 2002 pour 3 à 6 joueurs. Là, c'est 13, 14 ans. Il faut vraiment, avoir l'habitude des jeux de société. C'est un jeu dur. C'est un bon jeu. Au moins 120 minutes.
C'est un
mais
jeu
comptez,
qui se mérite, j'ai envie de dire.
Donc, comptez 3 heures.
Ah, c'est un excellent jeu. C'est...
Il faut y aller. Il faut pas avoir peur. Il faut vous lancer dedans. Si vraiment vous avez envie d'essayer quelque chose, un monument, ben, essayez Edge of Steam.
Et idéalement, si vous connaissez un club, un machin, des joueurs à côté un peu aguerris, ils pourront vous introduire au jeu, c'est plus facile.
Et des gens sympas.
Il faut se faire expliquer la règle.
Moi, c'est une personne qui connaissait déjà, qui me l'a expliqué la première fois.
Et puis pas que la règle. Enfin, je pense qu'à la limite, il faut vraiment qu'on se fasse coacher
pour
pas paumer la première et être dégoûté parce que.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, il faut avoir une personne.
Mais même entre joueurs confirmés, c'est un jeu qui pardonne pas l'erreur. Hein.
Et alors l'avantage, c'est qu'il a plein de cartes d'extension qui sont sorties. Et il y a eu des cartes effectivement très dures comme l'Irlande.
L'Irlande, c'était pour 2 ou 3 joueurs, 3 joueurs.
J'ai pas joué sur l'Irlande.
Non, l'Irlande, j'ai appris à jouer dessus. En fait, il y a la famine. C'est l'époque de l'Irlande avec la famine, donc il y a encore moins de ressources à livrer et tout. C'est encore plus dur.
Mais à noter que le jeu est ressorti récemment chez Mayfair en version US et en France, c'est j'ai un trou.
Attends, on va te dire. Mais effectivement.
Chez Edge. Il est sorti chez Edge.
Et c'est au nom de Steam, justement.
Alors, il y a deux versions. Et après, il y a un différent juridique qui oppose John Burrer et William et Martin Wallace. Donc, ce serait un peu long à expliquer. Mais le jeu coexiste sous deux noms. Et donc, il y a Edge of Steam et la version revendiquée par l'auteur qui est Steam tout court. Et donc, dans cette version Steam en VF chez Edge, il y a deux règles. Il y a deux niveaux de règles, dont une qui est idéale pour commencer, en fait, pour introduire des nouveaux joueurs, où il n'y a plus la phase d'enchère. L'ordre du tour est conditionné par les tuiles pouvoir, où si on prend une tuile avec un fort pouvoir, on sera dernier au prochain tour, etc. Et ça peut être une bonne façon de commencer le jeu.
Ouais, tu parles de l'éditeur Mayfair, il faut savoir que c'est un éditeur qui est connu pour faire de très très nombreux jeux de train. Il y a beaucoup ça. On voit bien qu'au début de la sélection, on a parlé de Queen Games avec beaucoup de jeux plus familiaux, mais quand même basés sur les jeux de train. Et Mayfair, par contre, c'est des jeux de train un peu plus costauds, puisqu'ils ont même fait une version des Colons de Catane, je crois.
C'est eux qui ont ressorti 1830 l'an dernier.
Oui, exactement.
Avant de finir sur 1830, il faut noter quand même qu'il y a une quinzaine d'extensions officielles pour Edge of Steam, et il n'y a pas moins d'une 30-35 extensions non officielles. Enfin, on a parlé d'Alban VR il n'y a pas longtemps, la Edge of Steam Team. et ben voilà, donc on a comment il s'appelle, Ted Alpache, Bézier Game,
c'est
voilà,
lui. Donc il y en a. C'est Ted Alpache qui fait Bézier Game.
Pas du tout. Maintenant qu'on a fait le tout venant.
Bah maintenant on a fait les faciles.
1830.
1830. Là,
alors 1830, est-ce que c'est un jeu de train? Parce que là.
Ça reste un jeu de train pour moi.
C'est un jeu boursier beaucoup.
Il y a beaucoup de boursicotage. Il y a toute une partie du jeu qui va consister à manipuler des stocks de bourse, des cours de bourse et.
Des actions.
Mais il n'y a plus pick-up and delivery.
Non, c'est que de la pose de réseau.
Construction de réseau.
Construction de réseau. Voilà, pour le coup, effectivement, on revient au premier jeu qu'on a présenté, comme Ticket to Ride ou même Paris Connection. Mais c'est vrai, un jeu à forte, forte dominante économique. On va effectivement passer son temps à calculer les bonus qu'on va avoir à poser tel rail, à faire des upgrades, mais des modifications, des améliorations de rails déjà existants, dans le but de gagner quelques dollars de plus. Et surtout, l'essentiel du jeu va consister à acquérir des compagnies à bas prix, les vider de toutes leurs ressources en posant des rails qui vont nous intéresser et les revendre au plus offrant après.
Ou pas.
Ou pas. Il faut arriver à réussir
ça. En sachant quand on est majoritaire dans deux compagnies, on peut faire des transferts de fonds.
Et là, ça devient vraiment vicieux.
Et c'est là que ça devient vicieux, et c'est tout l'intérêt du jeu.
Ah, effectivement.
Mais on ne comprend pas la première partie.
La première partie, on est un peu, pas au radar, mais on est un peu perdu. On dit qu'est-ce qui se passe, à quelle sauce je vais me faire manger.
Ouais. Et alors, ça s'appelle 1830 parce qu'on reconstruit le réseau ferré américain, donc qui est né sur la côte est, début dans les années 1830. Mais ça a donné naissance à toute une série de jeux.
Qu'on appelle les 18XX.
XX, voilà, parce qu'il y a un peu de tout. Donc, il y a vraiment 1860. Il y en a même un sur la France, non? Je ne sais même plus.
C'est possible.
Il y en existe tellement. Et chaque fois, ils ont un petit peu. Les règles diffèrent un petit peu. C'est peut-être même pas toujours les mêmes auteurs, d'ailleurs. Il y en a un sur l'Inde, 1853, un truc comme ça, voilà. Donc, après,
puis,
si on adhère.
Il y a même un 18XX qui n'est pas un jeu de train, qui est Poseidon, qui est paru chez Lookout Games.
Ouais,
on en a. Qui apprend les mécaniques.
Ouais. Et en fait, c'est sans doute un des. C'est un 1830.
T'allais dire quoi, meilleur
light.
Ou...
Ouais, c'est un des meilleurs, je pense, des 18XX. Parce
c'est
que
le plus accessible.
C'est accessible.
Que compris.
Parce que
j'ai joué encore.
Ah, parce que ce que j'aime pas dans 1830, c'est que quand on doit étendre le réseau, il faut trouver la bonne tuile qui va bien, etc. Ah, ouais. Et là, on perd un temps fou. Et quand j'ai un temps fou, on perd 5-10 minutes rien que pour trouver. Enfin, au moins 5 minutes, parce que pour trouver la bonne tuile qui va. Dans Poseidon, comme ils ont rethématisé ça avec des bateaux. Des compagnies de bateaux, etc. C'est beaucoup plus simple de. On se pose pas cette question-là en étant le réseau, en avançant sur des cases, simplement en mettant des jetons. Donc ça a beaucoup simplifié le jeu. Un concept aussi très fort de 1830, qui est pas beaucoup repris d'ailleurs, c'est l'obsolescence au fur et à mesure du progrès.
Oui.
On a des locomotives qui sont niveau 1, niveau 2. Quand on arrive au niveau 3, à partir du niveau 4, ça rend obsolète toutes celles d'avant du niveau 2, etc. et ainsi de suite. Et c'est ce qui va plomber d'ailleurs les compagnies.
Ça coûte de plus en plus cher à entretenir, effectivement. Ça coûte
et petit à petit, les compagnies se retrouvent vidées, même éventuellement, de leurs locomotives.
Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est donc avec toute cette dominante économique, gestion d'actions, enfin gestion de titres boursiers, etc., il s'est fortement recommandé de jouer avec un ordinateur à côté du jeu.
Oui, maintenant on peut, effectivement. Mais avant, on peut pas. C'est le gros problème de 1830.
En fait, ça évite de manipuler tout ce qui est argent liquide, de billets de Monopoly. Il y a encore quelqu'un qui joue avec des jetons de poker, par exemple, pour simplifier un peu les échanges. Mais pour suivre les actions, si on choisit de verser des dividendes ou de capitaliser sur la société, la gestion par informatique simplifie vraiment les choses.
T'as joué avec Fabien, toi?
Oui. Mais maintenant que j'ai joué comme ça, je jouerai plus autrement.
Ah oui, forcément.
Et pareil, c'est pour le coup, s'il y a bien un jeu qu'il faut se faire piquer, c'est celui-là, enfin, c'est ce genre de jeu-là.
Ouais, on risque de passer à côté complètement.
Oui, il faut se faire piquer et se faire coacher sur la première partie.
Mais là, on est au niveau du top du top. Enfin,
c'est dur de faire au-dessus, effectivement.
Très bien. Très bien. Donc,
tu nous fais un petit résumé de 1830, c'est un jeu pour
Oui.
C'est quoi? Tu veux en parler d'un en particulier?
Ouais, enfin, juste, s'il y en avait un par lequel commencer, c'est 18 AL. Qui est du print and play. Enfin, il faut se le fabriquer, on va dire. Mais c'est peut-être le plus accessible et le plus light.
Pourquoi?
Ils ont simplifié. Poseidon, c'est déjà, à mon avis, un des plus light et un des plus faciles d'accès.
Poseidon, on le trouve plus facilement. Après, si on veut un vrai 18XX avec de la pose de tuiles, une composante économique, enfin, tous les ingrédients d'un 18XX, c'est l'un des plus light et un de ceux par lesquels c'est conseillé de commencer.
D'accord.
Mais il faut se le fabriquer avant.
Il faut tout fabriquer, tu veux dire, la carte.
Il faut tout fabriquer.
Les billets, bon, on peut les prendre.
Il y a eu quelques mois de ça, un très bon article sur Jeudi Jeu qui était paru, sur quelqu'un qui racontait, alors j'ai oublié son pseudo, qui racontait la création du jeu depuis le début. Mais par contre, si on se lance dans la fabrication, ça a un coût quand même, parce qu'il faut acheter les matériaux, etc. Il faut être sûr d'y jouer ensuite.
Ah, mais c'est pareil quand on achète un jeu.
Oui, c'est pareil. Mais là, parce que bon, ça demande, non pas, enfin, au-delà d'un investissement financier, il y a aussi du temps. Le temps qu'on va consacrer à la fabrication du jeu. Ouais.
J'en reste sans voix.
On voit ça.
Oui, voilà.
Donc 1830, pour en citer un, non?
Le plus connu, c'est 1830, qui est ressorti en 2011 chez Mayfair, justement.
Ouais.
Qui, à ma connaissance, n'a pas de version française disponible.
Non, il y a une version US et une version allemande.
C'est chez Mayfair.
Excusez-moi, juste pour dire 18 AL, la durée approximative du jeu, c'est 300 minutes.
Ouais. 1830, c'est 360.
Ça se mérite. Hein.
Ça fait 5 heures, c'est ça?
Moi, 1830, je joue sur deux soirs.
Mais justement, pour en revenir, l'ajout de l'ordinateur et de l'informatique allège considérablement la durée des parties. Ouais.
Donc 1830, c'est un jeu de Francis Tresham, auteur très prolifique des années 80.
Civilisation,
par exemple, voilà. Donc pour 2 à 6 joueurs, de 180 à 360 minutes, informatique.
Parce que moi j'ai 3 à 6 joueurs et je pense pas qu'à 2 ce soit super.
Non,
fun,
je pense pas qu'à 2, effectivement, non, effectivement. Il y a peut-être une variante, mais non, il vaut mieux 3. De toute façon, il faut une même à 4 au moins, je pense. À partir de 12 ans, donc en anglais ou allemand, et au moins une bonne cinquantaine d'euros parce que c'est de l'import. Pour résumer rapidement, les jeux de train, en fait, à la base, c'est essentiellement des gros jeux de gestion. Enfin, des gros jeux. C'est des jeux de gestion, en tout cas, et c'est ce qui fait qu'on les aime. C'est pas parce qu'on construit un réseau de train. Enfin, moi, personnellement, c'est pas parce que je construis un réseau de train, c'est parce que c'est souvent derrière, ça cache des jeux de gestion assez avancés où on va, donc, il y a tout l'aspect, l'aspect d'action, il y a l'aspect de livraison éventuellement, etc., de gérer son matériel, de, donc c'est cet aspect-là qui fait la force. C'est pour ça qu'il y en a autant et la thématique plaît puisque ça se vend beaucoup. Ah, que Winsome, par exemple, fait son business là-dessus.
Ils ne font que des jeux de train, effectivement. Plus ou moins déguisés, mais ça reste que des jeux de train.
Ouais.
Et aux États-Unis, il y a des collectionneurs de 18XX, parce que des 18XX, il y en a plein, plein, plein. Et c'est juste impressionnant de voir ce qui existe dans tous les thèmes.
1830 a été réédité parce que sa cote était
sur le marché de l'occasion, c'était une pépite à trouver, c'était hors de prix.
Il y en a eu d'autres, hein, il y a eu 1853, après comme ça, mais c'est pareil, ils ont été réédités donc, pour casser un peu ça.
Mais oui, donc pour résumer, sur les jeux de train, il y a vraiment de tout. Et faut pas se dire que les jeux de train c'est pas pour moi, c'est trop gros, etc.
Il y a un message caché pour Mathieu.
Mathieu, String Railway, c'est bien.
Oui, il y a tous les niveaux de jeux de train, mais bon, après, on aime les jeux de gestion.
Voilà.
Enfin, un proxy jeu en tout cas. Je pense.
Vous venez d'écouter un non dossier de proxy jeu. Merci. Je savais qu'il fallait t'inviter.
Fallait pas.